Chapitre 18. Cette mort, arrivée 4 jours avant la dernière publication de son mariage, fut pour Lisbeth le coup de foudre qui brûle la moisson engrangée avec la grange. La Lorraine, comme il arrive souvent, avait trop réussi. Le maréchal était mort des coups portés à cette famille, par elle et par Madame Marneffe. La haine de la vieille fille, qui semblait assouvie par le succès, s'accrut de toutes ses espérances trompées. Lisbeth alla pleurer de rage chez Madame Marneffe, car elle fut sans domicile, le maréchal ayant subordonné la durée de son bail à celle de sa vie. Crevel, pour consoler l'ami de sa Valérie, en prit les économies, les doubla largement et plaça ce capital en 5% en lui donnant l'usufruit et mettant la propriété au nom de Célestine. Grâce à cette opération, Lisbeth posséda 2 000 francs de rente viagère. On trouva, lors de l'inventaire, un mot du maréchal à sa belle-sœur, à sa nièce Hortense et à son neveu Victorin, qu'il est chargé de payer, à eux trois, 1 200 francs de rente viagère à celle qui devait être sa femme, Mademoiselle Lisbeth Fischer. Adeline, voyant le baron entre la vie et la mort, réussit à lui cacher pendant quelques jours le décès du maréchal. Mais Lisbeth vint en deuil et la fatale vérité lui fut révélée 11 jours après les funérailles. Ce coup terrible rendit de l'énergie au malade. Il se leva, trouva toute sa famille réunie au salon, habillée en noir, et elle devint silencieuse à son aspect. En 15 jours, Hulot, devenu maigre comme un spectre, offrit à sa famille une ombre de lui-même. « Il faut prendre un parti, » dit-il d'une voix éteinte en s'asseyant sur un fauteuil et regardant cette réunion où manquaient Crevel et Steinbock. « Nous ne pouvons plus rester ici, » faisait observer Hortense au moment où son père se montra. « Le loyer est trop cher. » « Quant à la question du logement, » dit Victorin en rompant ce pénible silence, « j'offre à ma mère. » En entendant ces mots qui semblaient l'exclure, le baron releva sa tête inclinée vers le tapis où il contemplait les fleurs sans les voir et jeta sur l'avocat un déplorable regard. « Les droits du père sont toujours si sacrés, même lorsqu'il est infâme et dépouillé d'honneur, que Victorin s'arrêta. « À votre mère, » reprit le baron. « Vous avez raison, mon fils. L'appartement au-dessus du nôtre, dans notre pavillon, » dit Célestine en achevant la phrase de son mari. « Je vous gêne, mes enfants ?» dit le baron avec la douceur des gens qui se sont condamnés eux-mêmes. « Oh, soyez sans inquiétude pour l'avenir. Vous n'aurez plus à vous plaindre de votre père, et vous ne le reverrez qu'au moment où vous n'aurez plus à rougir de lui. » Il alla prendre Hortense et la baisa au front. Il ouvrit ses bras à son fils, qui s'y jeta désespérément en devinant les intentions de son père. Le baron fit un signe à Lisbeth, qui vint, et il l'embrassa au front. Puis il se retira dans sa chambre, où Adeline, dont l'inquiétude était poignante, le suivit. « Mon frère avait raison, Adeline, » lui dit-il en la prenant par la main. « Je suis indigne de la vie de famille. » Je n'ai pas osé bénir autrement que dans mon cœur mes pauvres enfants, dont la conduite a été sublime. Dis-leur que je n'ai pu que les embrasser, car d'un homme infâme, d'un père qui devient l'assassin, le fléau de la famille, au lieu d'en être le protecteur et la gloire, une bénédiction pourrait être funeste. Mais je les bénirai de loin, tous les jours. Quant à toi, Dieu seul, car il est tout-puissant, peut te donner des récompenses proportionnées à tes mérites. « Je te demande pardon, » dit-il en s'agenouillant devant sa femme, lui prenant les mains et les mouillant de larmes. « Hector, Hector, tes fautes sont grandes, mais la miséricorde divine est infinie, et tu peux tout réparer en restant avec moi. Relève-toi dans des sentiments chrétiens, mon ami. Je suis ta femme et non ton juge. Je suis ta chose. Fais de moi tout ce que tu voudras. « Mène-moi où tu iras, je me sens la force de te consoler, de te rendre la vie supportable, à force d'amour, de soins et de respect. Nos enfants sont établis, ils n'ont plus besoin de moi. Laisse-moi tâcher d'être ton amusement, ta distraction. Permets-moi de partager les peines de ton exil, de ta misère, pour les adoucir. Je te serai toujours bonne à quelque chose, ne fût-ce qu'à t'épargner la dépense d'une servante. Me pardonnes-tu, ma chère et bien-aimée Adeline ? Oui, mais mon ami, relève-toi. Eh bien, avec ce pardon, je pourrai vivre, reprit-il en se relevant. Je suis rentré dans notre chambre pour que nos enfants ne fussent pas témoins de l'abaissement de leur père. Ah, voir tous les jours devant soi un père, criminel comme je le suis, il y a quelque chose d'épouvantable, qui ravale le pouvoir paternel et qui dissout la famille. Je ne puis donc rester au milieu de vous. Je vous quitte pour vous épargner l'odieux spectacle d'un père sans dignité. Ne t'oppose pas à ma fuite, Adeline. Ce serait armer toi-même le pistolet avec lequel je me ferais sauter la cervelle. Enfin, je ne suis pas dans ma retraite. Tu me priverais de la seule force qui me reste, celle du remords. L'énergie d'Hector imposa silence à la mourante Adeline. Cette femme, si grande au milieu de tant de ruines, puisait son courage dans son intime union avec son mari, car elle le voyait à elle. Elle apercevait la mission sublime de le consoler, de le rendre à la vie de famille et de le réconcilier avec lui-même. « Hector, tu veux donc me laisser mourir de désespoir, d'anxiété, d'inquiétude ?» dit-elle en se voyant enlever le principe de sa force. « Je te reviendrai, ange descendu du ciel, je crois, exprès pour moi. Je vous reviendrai, sinon riche, du moins dans l'aisance. Écoute, ma bonne Adeline, je ne puis rester ici par une foule de raisons. D'abord, ma pension, qui sera de 6 000 francs, est engagée pour 4 ans. Je n'ai donc rien. Ce n'est pas tout. Je vais être sous le coup de la contrainte par corps dans quelques jours, à cause des lettres de change souscrites à Vauvinet. Ainsi, je dois m'absenter jusqu'à ce que mon fils, à qui je vais laisser des instructions précises, ait racheté ses titres. Ma disparition aidera puissamment cette opération. Lorsque ma pension de retraite sera libre, lorsque Vauvinet sera payé, je vous reviendrai. Tu décèlerais le secret de mon exil. Sois tranquille, ne pleure pas, Adeline. Il ne s'agit que d'un mois. Où iras-tu? Que feras-tu? Que deviendras-tu? Qui te soignera, toi qui n'es plus jeune? Laisse-moi disparaître avec toi. Nous irons à l'étranger, dit-elle. Eh bien, nous allons voir, répondit-il. Le baron sonna, donna l'ordre à Mariette de rassembler tous ses effets, de les mettre secrètement et promptement dans des malles. Puis il pria sa femme, après l'avoir embrassée avec une effusion de tendresse à laquelle elle n'était pas habituée, de le laisser un moment seul pour écrire les instructions dont avait besoin Victorin, en lui promettant de ne quitter la maison qu'à la nuit et avec elle. Dès que la baronne fut rentrée au salon, le fin vieillard passa par le cabinet de toilette, gagna l'antichambre et sortit, en remettant à Mariette un carré de papier sur lequel il avait écrit « Adressez mes malles par le chemin de fer de Corbeil à Monsieur Hector, bureau restant, à Corbeil. » Le baron, monté dans un fiacre, courait déjà dans Paris lorsque Mariette vint montrer à la baronne ce mot, en lui disant que monsieur venait de sortir. Adeline s'élança dans la chambre en tremblant plus fortement que jamais. Ses enfants, effrayés, l'y suivirent en entendant un cri perçant. On releva la baronne évanouie, il fallut la mettre au lit, car elle fut prise d'une fièvre nerveuse qui la tint entre la vie et la mort pendant un mois. « Où est-il ?» était la seule parole qu'on obtenait d'elle. Les recherches de Victorin furent infructueuses. Voici pourquoi. Le baron s'était fait conduire à la place du palais royal. Là, cet homme, qui retrouva tout son esprit pour accomplir un dessein prémédité pendant les jours où il était resté dans son lit, anéanti de douleur et de chagrin, traversa le palais royal et alla prendre une magnifique voiture de remise, rue Joquelet. D'après l'ordre reçu, le cocher entra rue de la Ville-l'Évêque, au fond de l'hôtel Josépha, dont les portes s'ouvrirent, au cri du cocher, pour cette splendide voiture. Josépha vint, amenée par la curiosité. Son valet de chambre lui avait dit qu'un vieillard impotent, incapable de quitter sa voiture, la priait de descendre pour un instant. « Josépha, c'est moi !» l'illustre cantatrice ne reconnut son Hulot qu'à la voix. « Comment c'est toi, mon pauvre vieux ? Ma parole d'honneur, tu ressembles aux pièces de 20 francs que les Juifs d'Allemagne ont lavées et que les changeurs refusent. »« Hélas, oui, » répondit Hulot, « je sors des bras de la mort. Mais tu es toujours belle, toi. Seras-tu bonne ?»«
C'est selon, tout est relatif, » dit-elle.
« Écoute-moi, » reprit Hulot, « peux-tu me loger dans une chambre de domestique, sous les toits, pendant quelques jours ? Je suis sans un liard, sans espérance, sans pain, sans pension, sans femme, sans enfant, sans asile, sans honneur, sans courage, sans amis et pis que cela, sous le coup des lettres de change. Pauvre vieux, c'est bien des sangs, es-tu aussi sans culotte ?»
« Tu ris, je suis perdu, » s'écria le baron. « Je comptais cependant sur toi, comme Gourville sur Ninon. »«
C'est, m'a-t-on dit, » demanda Josépha, « une femme du monde qui t'a mis dans cet état-là. Les farceuses s'entendent mieux que nous à la plumaison du dinde. Oh, te voilà comme une carcasse abandonnée par les corbeaux. On voit le jour à travers. »
« Le temps presse, Josépha !»
« Entre, mon vieux, je suis seule, et les gens ne te connaissent pas. Renvoie ta voiture, et t'as le payé ?»«
Oui, » dit le baron, en descendant appuyé sur le bras de Josépha.
« Tu passeras, si tu veux, pour mon père, » dit la cantatrice, prise de pitié. Elle fit asseoir Hulot dans le magnifique salon où il l'avait vu la dernière fois. « Est-ce vrai, vieux, » reprit-elle, « que tu as tué ton frère et ton oncle ?» Ruiner ta famille, surhypothéquer la maison de tes enfants et manger la grenouille du gouvernement en Afrique avec la princesse ?»
Le baron inclina tristement la tête.
« Eh bien, j'aime cela !» s'écria Josépha, qui se leva pleine d'enthousiasme. « C'est un brûlage général. C'est sardanapale. C'est grand, c'est complet. On est une canaille, mais on a du cœur. Eh bien !» Moi, j'aime mieux un mange-tout, passionné comme toi pour les femmes, que ces froids banquiers sans âme, qu'on dit vertueux, et qui ruinent des milliers de familles avec leurs railles qui sont de l'or pour eux et du fer pour les gogos. Toi, tu n'as ruiné que les tiens, tu n'as disposé que de toi, et puis tu as une excuse, et physique, et morale. » Elle se posa tragiquement et dit: c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Et voilà, ajouta-t-elle en pirouettant. Hulot se trouvait absous par le vice. Le vice lui souriait au milieu de son luxe effréné. La grandeur des crimes était là, comme pour les jurés, une circonstance atténuante. Est-elle jolie, ta femme du monde, au moins ? Demanda la cantatrice, en essayant pour première aumône de distraire Hulot, dont la douleur la navrait.
« Ma foi, presque autant que toi, » répondit finalement le baron.
« Eh bien, farce, m'a-t-on dit, que faisait-elle donc ? Est-elle plus drôle que moi ?»«
N'en parlons plus, » dit Hulot.
« On dit qu'elle a enguirlandé Montcrevel, le petit Steinbock et un magnifique Brésilien. C'est bien possible. Elle est dans un hôtel aussi joli que celui-ci, donné par Crevel. « Cette gueuse-là, c'est mon prévôt, elle achève les gens que j'ai entamés. Voilà, vieux, pourquoi je suis si curieuse de savoir comment elle fait. Je l'ai entrevue en calèche au bois, mais de loin. C'est, m'a dit Carabine, une voleuse finie. Elle essaie de manger Crevel, mais elle ne pourra que le grignoter. Crevel est un rat. Un rat bonhomme qui dit toujours oui et qui n'en fait qu'à sa tête. Il est vaniteux. Il est passionné, mais son argent est froid. On n'a rien de ces cadets-là que 1000 ou 3 000 francs par mois, et ils s'arrêtent devant la grosse dépense, comme des ânes devant une rivière. Ce n'est pas comme toi, mon vieux. Tu es un homme à passion. On te ferait vendre ta patrie. Aussi, vois-tu, je suis prête à tout faire pour toi. Tu es mon père, tu m'as lancé. C'est sacré. Que te faut-il ? Veux-tu 100 000 francs ? On s'exterminera le tempérament pour te les gagner. Quant à te donner la pâtée et la niche, ce n'est rien. Tu auras ton couvert mis ici tous les jours. Tu peux prendre une belle chambre au second,
et tu auras 100 écus par mois pour ta poche. » Le baron, touché de cette réception, eut un dernier accès de noblesse. « Non, ma petite, non, je ne suis pas venu pour me faire entretenir, » dit-il. « À ton âge, c'est un fier triomphe, » dit-elle. « Voici ce que je désire, mon enfant. Ton duc d'Hérouville a d'immenses propriétés en Normandie, et je voudrais être son régisseur sous le nom de Toul. J'ai la capacité, l'honnêteté, car on prend à son gouvernement. On ne vole pas pour cela dans une caisse. « Hé, hé !» fit Josepha. « Qui a bu, boira ?»« Enfin, je ne demande qu'à vivre inconnu pendant 3 ans. » « Ça, c'est l'affaire d'un instant, ce soir, après dîner, » dit Josepha. « Je n'ai qu'à parler. Le duc m'épouserait si je le voulais, mais j'ai sa fortune, je veux plus, son estime. C'est un duc de la haute école. C'est noble, c'est distingué, c'est grand comme Louis XIV et comme Napoléon mis l'un sur l'autre, quoique nain. Et puis j'ai fait comme la Schontz avec Rochefide. Par mes conseils, il vient de gagner 2 millions. Mais écoute-moi, mon vieux pistolet. Je te connais, tu aimes les femmes, et tu courras là-bas après les petites Normandes qui sont des filles superbes. Tu te feras casser les os par les gars ou par les pères, et le duc sera forcé de te dégommer. Est-ce que je ne vois pas, à la manière dont tu me regardes, que le jeune homme n'est pas encore tué chez toi, comme a dit Fénelon ? Cette régie n'est pas ton affaire. On ne rompt pas comme on veut, vois-tu, vieux, avec Paris, avec nous autres. Tu crèverais d'ennui à Hérouville. » « Que devenir ? » demanda le baron, « car je ne veux rester chez toi que le temps de prendre un parti. Voyons, veux-tu que je te case à mon idée ? Écoute, vieux chauffeur, il te faut des femmes, ça console de tout. Écoute-moi bien. Au bas de la Courtille, rue Saint-Maur-du-Temple, je connais une pauvre famille qui possède un trésor, une petite fille, plus jolie que je ne l'étais à 16 ans. Ah, ton œil flambe déjà. Ça travaille 16 heures par jour à broder des étoffes précieuses pour les marchands de soieries, et ça gagne 16 sous par jour, 1 sou par heure, une misère. Et ça mange comme les Irlandais des pommes de terre, mais frites dans la graisse de rat, du pain 5 fois la semaine, ça boit de l'eau de l'Ourcq au tuyau de la ville, parce que l'eau de la Seine est trop chère, et ça ne peut pas avoir d'établissement à son compte, faute de 6 ou 7 000 francs. Ça ferait les 100 horreurs pour avoir 7 ou 8 000 francs. Ta famille et ta femme t'embêtent, n'est-ce pas ? D'ailleurs, on ne peut pas se voir rien là où l'on était Dieu. Un père sans argent et sans honneur, ça s'empaille et ça se met derrière un vitrage. » Le baron ne put s'empêcher de sourire à ces atroces plaisanteries. « Eh bien, la petite Bijou vient demain m'apporter une robe de chambre brodée. Un amour, ils y ont passé 6 mois, personne n'aura pareille étoffe. Bijou m'aime, car je lui donne des friandises et mes vieilles robes. Puis j'envoie des bons de pain, des bons de bois et de la viande à la famille, qui casserait pour moi 2 tibias à un premier sujet si je le voulais. Je tâche de faire un peu de bien. Ah, je sais ce que j'ai souffert quand j'avais faim. Bijou m'a versé dans le cœur ses petites confidences. Il y a chez cette petite fille l'étoffe d'une figurante de l'ambigu comique. Bijou rêve de porter de belles robes comme les miennes et surtout d'aller en voiture. Je lui dirai « Ma petite, veux-tu d'un monsieur de… » « Quéquetat ?» demanda-t-elle en s'interrogeant. « 72 ? Je n'ai plus d'âge. « Veux-tu, lui dirai-je, d'un monsieur de 72 ans, bien propre, qui ne prend pas de tabac, sain comme mon œil, qui vaut un jeune homme ? Tu te marieras avec lui au 13e, il vivra bien gentiment avec vous, il vous donnera 7 000 francs pour être à votre compte, il te meublera un appartement tout en acajou, puis si tu es sage, il te mènera quelquefois au spectacle. Il te donnera 100 francs par mois pour toi et 50 francs pour la dépense. Je connais Bijou, c'est moi-même à 14 ans. J'ai sauté de joie quand cette abominable Crevel m'a fait ces atroces propositions-là. Eh bien, vieux, tu seras emballé là pour 3 ans. C'est sage, c'est honnête,
et ça aura d'ailleurs des illusions pour 3 ou 4 ans, pas plus. »
Hulot n'hésitait pas. Son parti de refuser était pris, mais pour remercier la bonne et excellente cantatrice qui faisait le bien à sa manière, il eut l'air de balancer entre le vice et la vertu.
« Ah ça, tu restes froid comme un pavé en décembre !» reprit-elle, étonnée. « Voyons, tu fais le bonheur d'une famille composée d'un grand-père qui trotte, d'une mère qui s'use à travailler, et de 2 sœurs, dont une fort laide, qui gagne à elle 32 sous en se tuant les yeux. Ça compense le malheur dont tu es la cause chez toi. Tu rachètes tes fautes en t'amusant comme une lorette à ma bille. »
Hulot, pour mettre un terme à cette séduction, fit le geste de compter de l'argent.
« Sois tranquille sur les voies et les moyens, » reprit Josepha. « Mon duc te prêtera 10 000 francs, 7 000 pour un établissement de broderie au nom de bijoux, 3 000 pour te meubler, et tous les 3 mois, tu trouveras 650 francs ici sur un billet. Quand tu recouvreras ta pension, tu rendras au duc ces 17 000 francs là. En attendant, tu seras heureux comme un coq en pâte et perdu dans un trou à ne pas pouvoir être trouvé par la police. Tu te mettras en grosse redingote de castorine, tu auras l'air d'être un propriétaire aisé du quartier. Nomme-toi Toul, si c'est ta fantaisie. Moi, je te donne à bijoux comme un de mes oncles venus d'Allemagne en faillite, et tu seras chouchouté comme un dieu. Voilà, papa. Qui sait, peut-être ne regretteras-tu rien. Si par hasard tu t'ennuyais, garde une de tes belles pelures. Tu viendras ici me demander à dîner et passer la soirée.
Moi qui voulais devenir vertueux, rangé, tiens, fais-moi prêter 20 000 francs, et je pars faire fortune en Amérique, à l'exemple de mon ami d'Aiglemont, quand Nucingen l'a ruiné.
Toi ? S'écria Josepha. Laisse donc les mœurs aux épiciers, aux simples tourlourous, aux citoyens français, qui n'ont que la vertu pour se faire valoir. Toi, tu es né pour être autre chose qu'un jobard. Tu es en homme ce que je suis en femme, un génie guapeur.
La nuit porte conseil. Nous causerons de tout cela demain. Tu vas dîner avec le duc. Mon Dérouville te recevra poliment, comme si tu avais sauvé l'État. Et demain, tu prendras un parti.
Allons, de la gaieté, mon vieux. La vie est un vêtement. Quand il est sale, on le brosse. Quand il est troué, on le raccommode, mais on reste vêtu tant qu'on peut. »
Cette philosophie du vice et son entrain dissipèrent les chagrins de Hulot. Le lendemain, à midi, après un succulent déjeuner, Hulot vit entrer un de ces vivants chefs-d'œuvre que Paris, seul au monde, peut fabriquer à cause de l'incessant concubinage, du luxe et de la misère, du vice et de l'honnêteté, du désir réprimé et de la tentation renaissante, qui rend cette ville l'héritière des Ninives, des Babylones et de la Rome impériale. Mademoiselle Olympe Bijoux, petite fille de 16 ans, montra le visage sublime que Raphaël a trouvé pour ses vierges, des yeux d'une innocence attristée par des travaux excessifs, des yeux noirs, rêveurs, armés de longs cils, et dont l'humidité se desséchait sous le feu de la nuit laborieuse, des yeux assombris par la fatigue, mais un teint de porcelaine et presque maladif, mais une bouche comme une grenade entr'ouverte, un sein tumultueux, des formes pleines, de jolies mains, des dents d'un émail distingué, des cheveux noirs abondants, le tout ficelé d'indienne à 75 centimes le mètre, ornée d'une collerette brodée, montée sur des souliers de peau sans clous et décorée de gants à 29 sous. L'enfant, qui ne connaissait pas sa valeur, avait fait sa plus belle toilette pour venir chez la grande dame. Le baron, repris par la main griffue de la volupté, sentit toute sa vie s'échapper par ses yeux. Il oublia tout devant cette sublime créature. Il fut comme le chasseur apercevant le gibier. Devant un empereur, on le met en joue. « Et, lui dit Josepha dans l'oreille, c'est garanti neuf, c'est honnête, et pas de pain. Voilà Paris, j'ai été ça. »
« C'est dit, répliqua le vieillard en se levant et se frottant les mains. Quand Olympe Bijou fut partie, Joséphin regarda le baron d'un air malicieux. « Si tu ne veux pas avoir du désagrément, papa, dit-elle, sois sévère comme un procureur général sur son siège. Tiens la petite en bride, sois Bartholo. Gare aux Augustes, aux Hippolytes, aux Nestor, aux Victor, à tous les Or. Dame, une fois que ça sera vêtu, nourri, si ça lève la tête, tu seras mené comme un Russe. Je vais voir à t'emménager. Le duc fait bien les choses. Il te prête, c'est-à-dire il te donne, 10 000 francs, et il en met 8 chez son notaire, qui sera chargé de te compter 600 francs tous les trimestres, car je te crains. Suis-je gentille ? Adorable. 10 jours après avoir abandonné sa famille, au moment où, tout en larmes, elle était groupée autour du lit d'Adeline mourante, et qui disait d'une voix faible « Que fait-il ?» Hector, sous le nom de Toul, rue Saint-Maur, se trouvait avec Olympe à la tête d'un établissement de broderie, sous la déraison sociale, Toul et Bijou. Victorin Hulot reçut, du malheur acharné sur sa famille, cette dernière façon qui perfectionne ou qui démoralise l'homme. Il devint parfait. Dans les grandes tempêtes de la vie, on imite les capitaines qui, par les ouragans, allègent le navire des grosses marchandises. L'avocat perdit son orgueil intérieur, son assurance visible, sa morgue d'orateur et ses prétentions politiques. Enfin, il fut en homme ce que sa mère était en femme. Il résolut d'accepter sa Célestine, qui, certes, ne réalisait pas son rêve, et jugea sainement la vie en voyant que la loi commune oblige à se contenter en toute chose d'à peu près. Il se jura donc à lui-même d'accomplir ses devoirs, tant la conduite de son père lui fit horreur. Ses sentiments se fortifièrent au chevet du lit de sa mère, le jour où elle fut sauvée. Ce premier bonheur ne vint pas seul. Claude Vignon, qui tous les jours prenait de la part du prince de Wissembourg le bulletin de la santé de Madame Hulot, pria le député réélu de l'accompagner chez le ministre. « Son Excellence, lui dit-il, désire avoir une conférence avec vous sur vos affaires de famille. » Victorin Hulot et le ministre se connaissaient depuis longtemps. Aussi le maréchal le reçut-il avec une affabilité caractéristique et de bon augure. « Mon ami, dit le vieux guerrier, j'ai juré dans ce cabinet à votre oncle le maréchal de prendre soin de votre mère. Cette sainte femme va recouvrer la santé, m'a-t-on dit. Le moment est venu de panser vos plaies. J'ai là 200 000 francs pour vous. Je vais vous les remettre. » L'avocat fit un geste digne de son oncle le maréchal. « Rassurez-vous, dit le prince en souriant, c'est un fidéicommis. Les jours sont comptés, je ne serai pas toujours là. Prenez donc cette somme et remplacez-moi dans le sein de votre famille. Vous pouvez vous servir de cet argent pour payer les hypothèques qui grèvent votre maison. Ces 200 000 francs appartiennent à votre mère et à votre sœur. Si je donnais cette somme à Madame Hulot, son dévouement à son mari me ferait craindre de l'avoir dissipée. Et l'intention de ceux qui la rendent est que ce soit le pain de Madame Hulot et celui de sa fille, la comtesse de Steinbock. Vous êtes un homme sage, le digne fils de votre noble mère, le vrai neveu de mon ami le maréchal. Vous êtes bien apprécié ici, mon cher ami, comme ailleurs. Soyez donc l'ange tutélaire de votre famille. Acceptez le legs de votre oncle et le mien. Monseigneur, dit Hulot en prenant la main du ministre et la lui serrant, des hommes comme vous savent que les remerciements en paroles ne signifient rien. La reconnaissance se prouve. Prouvez-moi la vôtre, dit le vieux soldat. Que faut-il faire ? Acceptez mes propositions, dit le ministre. On veut vous nommer avocat du contentieux de la guerre, qui, dans la partie du génie, se trouve surchargé d'affaires litigieuses à cause des fortifications de Paris. Puis, avocat consultant de la préfecture de police et conseil de la liste civile. Ces trois fonctions vous constituent 18 000 francs de traitement et ne vous enlèveront point votre indépendance. Vous voterez à la Chambre selon vos opinions politiques et votre conscience. Agissez en toute liberté. Allez, nous serions bien embarrassés si nous n'avions pas une opposition nationale. Enfin, un mot de votre oncle, écrit quelques heures avant qu'il ne rendît le dernier soupir, m'a tracé ma conduite envers votre mère, que le maréchal aimait bien. Mesdames Popinot, de Rastignac, de Navarreins, d'Espard, de Grandlieu, de Carigliano, de Lenoncourt et de Labatie, ont créé pour votre chère mère une place d'inspectrice de bienfaisance. Ces présidentes de sociétés de bonnes œuvres ne peuvent pas tout faire. Elles ont besoin d'une dame probe, qui puisse les suppléer activement, aller visiter les malheureux, savoir si la charité n'est pas trompée, vérifier si les secours sont bien remis à ceux qui les ont demandés, pénétrer chez les pauvres honteux, etc. Votre mère remplira la mission d'un ange. Elle n'aura de rapport qu'avec messieurs les curés et les dames de charité. On lui donnera 6 000 francs par an, et ses voitures seront payées. Vous voyez, jeune homme, que du fond de son tombeau, l'homme pur, l'homme noblement vertueux, protège encore sa famille. Des noms tels que celui de votre oncle sont et doivent être une égide contre le malheur dans les sociétés bien organisées. Suivez donc les traces de votre oncle. Persistez-y, car vous y êtes, je le sais. Tant de délicatesse, prince, ne m'étonne pas chez l'ami de mon oncle, dit Victorin. Je tâcherai de répondre à toutes vos espérances. Allez promptement consoler votre famille. Ah, dites-moi, reprit le prince en échangeant une poignée de main avec Victorin, votre père a disparu. Hélas, oui, tant mieux. Ce malheureux a eu, ce qui ne lui manque pas d'ailleurs, de l'esprit. Il a des lettres de change à craindre. Ah, vous recevrez, dit le maréchal, 6 mois d'honoraires de vos 3 places. Ce paiement anticipé vous aidera sans doute à retirer ces titres des mains de l'usurier. Je verrai d'ailleurs Nucingen, et peut-être pourrai-je dégager la pension de votre père, sans qu'il en coûte un liard ni à vous ni à mon ministère. Le pair de France n'a pas tué le banquier, Nucingen est insatiable, et il demande une concession de je ne sais quoi. À son retour, rue Plumet, Victorin put donc accomplir son projet de prendre chez lui sa mère et sa sœur. Le jeune et célèbre avocat possédait pour toute fortune un des plus beaux immeubles de Paris, une maison achetée en 1834 en prévision de son mariage et située sur le boulevard entre la rue de la Paix et la rue Louis-le-Grand. Un spéculateur avait bâti sur la rue et sur le boulevard 2 maisons, au milieu desquelles se trouvait, entre 2 jardinets et des cours, un magnifique pavillon, débris des splendeurs du grand hôtel de Verneuil. Hulot fils, sûr de la dot de Mademoiselle Crevel, acheta pour 1 000 000, au crier, cette superbe propriété, sur laquelle il paya 500 000 francs. Il se logea dans le rez-de-chaussée du pavillon, en croyant pouvoir acheter le paiement de son prix avec les loyers. Mais si les spéculations en maison à Paris sont sûres, elles sont lentes ou capricieuses, car elles dépendent de circonstances imprévisibles. Ainsi que les flâneurs parisiens ont pu le remarquer, le boulevard entre la rue Louis-le-Grand et la rue de la Paix fructifia tardivement. Il se nettoya, s'embellit avec tant de peine que le commerce ne vint étaler là qu'en 1840 ses splendides devantures, l'or des changeurs, les féeries de la mode et le luxe effréné de ses boutiques. Malgré 200 000 francs offerts à sa fille par Crevel dans le temps où son amour-propre était flatté de ce mariage, et lorsque le baron ne lui avait pas encore pris Josepha, malgré 200 000 francs payés par Victorin en 7 ans, la dette qui pesait sur l'immeuble s'élevait encore à 500 000 francs à cause du dévouement du fils pour le père. Heureusement, l'élévation continue des loyers, la beauté de la situation, donnaient en ce moment toute leur valeur aux 2 maisons. La spéculation se réalisait à 8 ans d'échéance, pendant lesquelles l'avocat s'était épuisé à payer des intérêts et des sommes insignifiantes sur le capital dû. Les marchands proposaient eux-mêmes des loyers avantageux pour les boutiques, à condition de porter les baux à 18 années de jouissance. Les appartements acquéraient du prix par le changement du centre des affaires, qui se fixait alors entre la Bourse et la Madeleine. désormais le siège du pouvoir politique et de la finance à Paris. La somme remise par le ministre, jointe à l'année payée d'avance et au pot de vin consenti par les locataires, allait réduire la dette de Victorin à 200 000 francs. Les deux immeubles de produits entièrement loués devaient donner 100 000 francs par an. Encore 2 années, pendant lesquelles Hulot-Fils allait vivre de ses honoraires doublés par les places du maréchal, il se trouverait dans une position superbe. C'était la manne tombée du ciel. Victorin pouvait donner à sa mère tout le premier étage du pavillon et à sa sœur le deuxième, où Lisbeth aurait 2 chambres. Enfin, tenue par la cousine Bette, cette triple maison supporterait toutes ses charges et présenterait une surface honorable, comme il convenait au célèbre avocat. Les astres du palais s'éclipsaient rapidement, et Hulot-Fils, doué d'une parole sage, d'une probité sévère, était écouté par les juges et par les conseillers. Il étudiait ses affaires, il ne disait rien qu'il ne pût prouver, il ne plaidait pas indifféremment toutes les causes. Il faisait enfin honneur au barreau. Son habitation, rue Plumet, était tellement odieuse à la baronne qu'elle se laissa transporter rue Louis-le-Grand. Par les soins de son fils, Adeline occupa donc un magnifique appartement. On lui sauva tous les détails matériels de l'existence, car Lisbeth accepta la charge de recommencer les tours de force économiques accomplis chez Madame Marneff, en voyant un moyen de faire peser sa sourde vengeance sur ces 3 si nobles existences, objets d'une haine attisée par le renversement de toutes ses espérances. Une fois par mois, elle alla voir Valérie, chez qui elle fut envoyée par Hortense, qui voulait avoir des nouvelles de Venceslas, et par Célestine, excessivement inquiète de la liaison avouée et reconnue de son père avec une femme à qui sa belle-mère et sa belle-sœur devaient leur ruine et leur malheur. Comme on le suppose, Lisbeth profita de cette curiosité pour voir Valérie aussi souvent qu'elle le voulait.